Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Ô mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité.
Salut et paix à vous tous qui suivez cette émission en sa présence, une œuvre du Centre Biblique. La voix est celle de votre indigne serviteur, Danny Wichai. Dieu me voit, Dieu m'entend, Dieu connaît tout ce que je pense. Sur moi constamment, ses regards sont tournés. Ainsi, vivons dans sa sainte présence et nous éviterons grand nombre de péchés. Je commence cette émission par ces paroles d'un grand-père laissé à l'intention d'un de ses petits-fils, des paroles que ce dernier a trouvées sur un tableau en entrant dans la chambre à coucher de son grand-père. Nous allons méditer sur la présence de Dieu et la prière. Je répète ce thème, la présence de Dieu et la prière. Beaucoup de gens ont une idée fausse de la présence de Dieu, tout comme ils entretiennent de fausses conceptions sur la prière. Mais ils ne peuvent ni ne veulent nullement l'admettre, étant donné que les notions de présence des dieux et de prière sont des notions élémentaires que toute personne censée être religieuse devrait connaître. Et c'est là le problème. C'est que la Bible ne nous amène pas à une religion, mais à une relation avec Dieu. Lisons deux textes dans le livre de la Genèse. Le premier se trouve dans Genèse, au chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au 16e. Caïn dit à l'Éternel, « Le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable. Je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, on le vengera sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Mais Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod, à l'est d'Éden. Le deuxième texte est toujours dans Genèse au chapitre 4, cette fois-ci à partir du verset 25 jusqu'au 26e. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. À Seth aussi naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Le premier texte nous aide à comprendre ce que la présence de Dieu, alors que le second nous facilite la compréhension de ce qu'est la prière. Quand il nous est dit, au verset 16, que Caïn sortit de la présence de Dieu, de la présence de l'Éternel, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie ce qu'il dit lui-même, au verset 14. C'est au niveau de la dernière partie de ce verset. Il dit ceci, je lis, « Je devrais me cacher loin de ta face. »« Je devrais me cacher loin de ta face. » La présence de Dieu, c'est sa face. Sa face, c'est sa personne. Être devant la face de Dieu, c'est être dans sa proximité. C'est faire son approche. Dans le livre de Lévitique, on trouve environ 70 fois l'expression « devant la face de l'Éternel » ou « devant l'Éternel ». Oui, être dans la présence de Dieu, c'est faire son approche. Le psalmiste dit dans le psaume 73, au verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Être dans la présence de Dieu, c'est être dans un lieu de délices, être à un endroit où il y a de plaisirs éternels. Vous vous imaginez quel drame a été celui de Caïn lorsqu'il sortit de la présence de Dieu. Il affirme lui-même, dans la suite du verset 14, « Je serai errant et tremblant sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » Beaucoup sont dans ce monde comme Caïn, loin de la présence de Dieu. Ils mènent leur vie loin de la face de Dieu. Ils ont peut-être tout ce qui les réjouit, mais quand Dieu évalue leur vie, le constat qu'il fait, c'est qu'ils sont errants, c'est-à-dire vagabonds, tremblants, c'est-à-dire remplis de toutes sortes de peurs, peur de maladie, peur d'accident, peur d'échec professionnel, peur de l'avenir, peur de l'espace, peur des eaux, peur de forêt, peur de manque d'argent, peur de la vieillesse, peur de ceci, peur de cela. Ils sont sans assurance. Caïn dit, si quelqu'un me trouve, il me tuera. Il a tué son frère Abel, et maintenant, il a peur, lui, d'être tué. Mais, pauvre Caïn, ne le sais-tu pas? Le salaire du péché, dit le Seigneur, c'est la mort. C'est la mort. Et je voudrais insister ici sur le fait que le meurtre est un péché horrible, un péché abominable. Dieu ne peut nullement supporter un meurtrier. Et dans cette ville, il y a tant de meurtriers, des meurtriers qui courent dans les rues, nuit et jour, qu'ils sachent qu'ils sont bannis de la présence de Dieu, bannis de devant la face de l'Éternel. Si quelqu'un me trouve, il me tuera, disait Caïn. Oui, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Et celui qui est loin de la présence de Dieu est la cible du diable. Le diable, qui cherche-t-il à dévorer? Eh bien, c'est ceux qui n'ont pas de relation ni de communion avec Dieu. Cher ami auditeur, vis-tu comme Caïn loin de la face de Dieu? Croupis-tu sous le poids de tes péchés au point que la pensée de Dieu t'accable? Penses-tu calmer tes sentiments de culpabilité en fuyant les lieux, les personnes ou les messages qui te parlent de Dieu? Toute cette fuite en avant ne peut jamais te soulager. Au contraire, tu vas au-devant d'un jugement divin sévère. Comment peut-on entrer dans la présence de Dieu? Écoutez la réponse à cette question dans le verset 26. À Seth aussi, il naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ce texte nous révèle un travail de restauration que Dieu avait fait. C'est la naissance d'une autre postérité d'Adam que celle de Caïn. Une nouvelle descendance, celle de Seth à Enoch, contrastant avec l'ancienne caractérisée par l'impiété, celle de Caïn. Nous avons ici une génération d'hommes qui commence à invoquer le nom de l'Éternel. Il n'est pas dit « c'est alors qu'on invoqua le nom de l'Éternel », mais plutôt « c'est alors qu'on commença » à invoquer le nom de l'Éternel. Cela signifie que, auparavant, ou bien avant ce temps précis, il n'y avait jamais d'invocation du nom de l'Éternel. Il est vrai qu'Adam et Ève dialoguaient avec Dieu avant la chute, et même après la chute, mais on voit bien qu'alors, ils se sont cachés de Dieu. Et c'est Dieu qui amorça, lui, le dialogue, ou plutôt l'interrogatoire avec eux. Mais avec Enoch, c'est l'invocation au sens strict de la prière. Invoquer signifie quoi? Invoquer signifie appeler au secours. On peut le voir dans Romains au chapitre 10, au verset 13. Il est écrit ceci. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est une parole que l'apôtre Paul tire du prophète Joël. Celui qui veut entrer dans la présence de Dieu doit commencer par invoquer le Seigneur. Je souligne au passage que le Seigneur, dans ce texte, c'est le Seigneur Jésus. La première est la seule prière que Dieu peut exaucer d'un homme qui vit loin de sa présence dans le péché, c'est celle qui consiste pour cet homme à lui demander le salut au nom de Jésus qu'il reconnaît dans sa vie comme Seigneur. Dieu n'écoute pas ou n'exauce pas les pécheurs, nous est-il dit dans Jean au chapitre 9 au verset 31. Mais si le pécheur se repent de ses péchés et s'adresse à Dieu en lui confessant ses péchés et en mettant sa foi en Jésus-Christ pour son salut, ce pécheur-là, Dieu l'accueille, l'exauce. Oui, il exauce sa prière. Il lui pardonne ses péchés et le sauve pour l'éternité. C'est dans ce sens que parle le psaume 65 au verset 3. Je lis. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mais tous les hommes ne peuvent pas commencer à venir à Dieu pour lui demander qui le mariage, qui le travail, qui le diplôme, qui les grades ou qui les enfants, l'argent, etc. Et s'attendre à être exaucé tant qu'ils vivent dans le péché comme Caïn, puisque ainsi ils sont sans relation vitale avec Dieu. Quand quelqu'un prie Dieu, il l'invoque comme qui? Au temps d'Enoche, on invoquait Dieu. Il est évident que nous ne savons pas quel était l'appellatif de Dieu pour cette génération-là, à partir d'Adam jusqu'à Enoche. Mais quand Moïse écrit le livre de la Genèse, il peut nous dire qu'ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Parce que au temps de Moïse, Dieu était connu sous ce nom de l'Éternel, Yahvé. Abraham et sa descendance connaissaient Dieu comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mais au temps de Moïse, et c'est au temps de la loi, Dieu se révèle à Israël comme Jéhovah, Yahvé, qui est traduit en français par l'Éternel. Mais sommes-nous aujourd'hui appelés à invoquer Dieu en tant que Jéhovah? Quand on lit Exode au chapitre 20, on se rend tout de suite compte que Dieu avait donné un commandement parmi tant d'autres, selon lequel on ne devait pas prendre le nom de Dieu en vain. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu est saint et c'est un Dieu jaloux. Et il ne laissera pas impuni quiconque prend son nom en vain. Il y a autant de gens qui, aujourd'hui, invoquent Dieu en toute indignité. Ils invoquent le nom de Dieu avec une telle légèreté que ils mériteraient le châtiment des dieux, le châtiment du Dieu saint. Mais sous quel nom sommes-nous appelés à invoquer Dieu aujourd'hui? Eh bien, lorsque le Seigneur Jésus est venu, parce que c'est lui qui nous révèle Dieu dans le Nouveau Testament, c'est lui qui est venu sceller la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, entre Dieu et la maison d'Israël, selon Jérémie chapitre 31 au verset 31. Mais Dieu, dans sa grâce, nous intègre dans cette alliance. Il nous intègre, nous tous, les nations païennes. Et ainsi, nous sommes devenus aujourd'hui, en Jésus-Christ, le peuple de Dieu, l'Église. Les chrétiens, nous sommes bénéficiaires de toutes les dispositions de la nouvelle alliance. Et le Seigneur, après sa résurrection, dans Jean au chapitre 20, au verset 17, lorsque Marie voulait le toucher, il lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va et dis à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. » Le Seigneur Jésus est venu et il nous a révélé Dieu comme étant notre Père. Il nous fait entrer dans une relation filiale avec Dieu. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est donc aujourd'hui, en tant qu'enfants, que nous invoquons Dieu. Il est évident que celui qui appelle Dieu comme son Père doit s'assurer qu'il est passé par la nouvelle naissance. Au temps d'Enoch, il y a eu une nouvelle génération, symbole de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le plus grand miracle dans toutes les expériences spirituelles que nous pouvons faire. C'est le plus grand miracle. Les pharisiens, les scribes cherchaient un signe. Le Seigneur leur a dit, mais une génération perverse cherche un signe. Il leur sera donné d'autres signes que celui de Jonas. Nous savons que Jonas fut englouti dans l'eau, englouti dans le ventre d'un cétacé, et 3 jours plus tard, il fut vomi. Cette expérience de Jonas est une préfiguration de la résurrection du Seigneur Jésus, et par extrapolation, cela signifie aussi la nouvelle naissance, qui est en quelque sorte la résurrection spirituelle d'une personne. Notre esprit qui était mort dans les péchés est revivifié par l'action puissante de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et donc, celui qui invoque Dieu comme Père doit s'assurer qu'il s'est repenti de ses péchés, qu'il a cru au Seigneur Jésus, qu'il a invoqué son nom pour son salut. Comme il est écrit dans les Actes, au chapitre 4, verset 12, « Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. » Donc, l'appellatif de Dieu aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est « Notre Père ». C'est ainsi que le Seigneur a appris à ses disciples la prière dominicale dans Matthieu chapitre 6, du verset 9 jusqu'au verset 13. Il leur a dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » La première chose dans la prière pour un racheté, c'est de réaliser que Dieu est notre Père. Ça c'est, on pourrait dire, la première pierre, la pierre de touche dans cet exercice de la prière. Puisque c'est par la prière d'invocation, la prière d'acceptation de la Seigneurie du Seigneur Jésus que nous rentrons dans la présence de Dieu, nous rentrons dans la famille de Dieu, nous rentrons en relation avec Dieu. Eh bien, c'est de cette façon-là que nous pouvons commencer à appeler Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Il est évident aussi que tous n'ont pas cette connaissance, puisqu'ils n'ont pas considéré comment le Seigneur Jésus s'adressait à son Père. Dans le Nouveau Testament, partout où le Seigneur prie, nous l'entendons, nous le voyons invoquer Dieu comme son Père. Eh bien, que ce soit dans l'enseignement de Matthieu 6, quand il instruit ses apôtres sur la façon de prier, que ce soit dans la prière dite sacerdotale, dans Jean au chapitre 17, lorsque lui-même s'adresse à Dieu, à son Père. Il l'appelle pas par Jéhovah, quoique Dieu n'ait pas changé. Il est toujours le même. C'est ce Jéhovah de l'Ancien Testament qui est le même aujourd'hui, mais la forme d'expression de nos relations avec lui a changé. Ce n'est plus un Dieu lointain, mais c'est plutôt un Dieu qui nous a intégrés dans sa famille. Et il n'y a pas plus doux que ce titre de Père pour nos âmes. Il y en a qui appellent Dieu aujourd'hui le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il se base sur l'alliance de Dieu avec Israël. Vous savez que nous les pains, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, lorsque vous lisez à partir du verset 11, il rappelle aux Éphésiens qu'ils étaient considérés par les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, comme des païens, des gens incirconcis, qui n'avaient pas droit aux alliances, aux promesses. On n'avait pas droit de citer en Israël. On était dans ce monde sans Dieu, sans espérance. Eh bien, nous ne pouvons pas nous baser sur cette alliance de Dieu avec Israël. Parce que là, Dieu était un Dieu ethnique, le Dieu exclusif aux Juifs. Tandis que le Seigneur Jésus est venu, aujourd'hui, il nous a introduits dans cette nouvelle alliance. Et dans cette alliance, nous avons tous les droits, le droit même meilleur que ceux qu'avait Israël auprès des dieux. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes appelés à attendre le Seigneur Jésus qui viendra nous ravir dans les lieux célestes. Notre patrie est céleste. Tandis qu'Israël avait une espérance purement terrestre. Israël devait hériter de la Palestine. Et donc, aujourd'hui, nous avons une alliance qui est meilleure. Et c'est sur cette base-là, où nous connaissons Dieu comme Père, que nous pouvons prier. Je prends un exemple tout à fait banal. Lorsque votre père est gouverneur de province et que vous vivez normalement dans votre famille, un matin, vous vous réveillez, vous voulez vous adresser à votre père, allez-vous frapper à sa porte, à la porte de sa chambre, en l'appelant sous le titre de gouverneur? Ce serait absurde, peut-être pas absurde, mais ce serait très, très distant. Votre père préférerait que vous l'appeliez papa. C'est comme cela que Dieu nous traite. Nous sommes ses enfants. Il est content que nous puissions l'invoquer en tant que notre père. Et il nous a donné un esprit par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Je crois que c'est un sujet très passionnant pour ceux qui ont réalisé la valeur de cette nouvelle alliance, qui ont réalisé les privilèges que nous avons dans cette nouvelle relation que le Seigneur a établie entre Dieu, son Père et nous. Alors, prochainement, nous allons aborder la question de la prière du racheté. Quelles sont les conditions pour que la prière du racheté soit exaucée? Quels sont les éléments précis aussi sur lesquels il peut se fonder pour s'assurer que Dieu écoute sa prière? Comment peut-il vivre en permanence dans la présence de Dieu? Et comment peut-il aussi avoir cette soif de Dieu, comme le psalmiste le dit? Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand paraîtrai-je devant la face de l'Éternel? Alors comment le racheté peut-il garder ardent en lui ce désir de demeurer devant la face de l'Éternel? Voilà ce que sera la suite de ce message basé sur la présence des dieux et la prière. Cher ami auditeur, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes sorti de l'impiété de Caïn? Est-ce que vous êtes sorti de la haine de Caïn qui tua son frère et qui subit le châtiment de Dieu? Il devint errant. Il sortit de la présence de Dieu. Il devint vagabond. Il vécut dans la misère la plus noire et il légua cette misère à sa descendance. Voulez-vous être compté parmi la nouvelle génération, celle qui invoque Dieu comme Enoch? Voulez-vous sortir de cet état de péché en invoquant le nom du Seigneur Jésus pour votre salut? Et si vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur, je vous pose encore une autre question. Est-ce que vous vivez en communion avec le Seigneur? Est-ce que vous vivez sous son autorité? Parce que celui que vous appelez Seigneur est le chef. Et il voudrait que vous puissiez vivre selon les exigences de la sainteté. Samuel avait dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Certains ont fait de la prière une technique. Non, la prière, c'est une question de relation de cœur avec le Seigneur. Si nos cœurs sont purs, nous verrons Dieu. Nous pouvons nous adresser à Dieu et Dieu nous écoutera. Il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous allons prier. Si tu reconnais que tu es comme Caïn, tu peux dire à Dieu, oui Seigneur, je suis rempli de haine. À travers ma haine, tuer telle personne, tel voisin, tel collègue dans mon travail. Tu peux dire cela au nom du Seigneur Jésus. Tu peux trouver le pardon de tes péchés et tu peux trouver la paix. Et tu peux avoir la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu l'invoques comme Seigneur, tu peux trouver le repos pour ton âme. Seigneur Jésus, nous voulons te louer pour ta parole qui a été prêchée. Nous voulons te louer pour le fait que tu es venu nous ramener sur le chemin de l'éternité. Tu es venu nous ramener à ton Père. Tu es venu chasser l'impiété de nos cœurs. Tu es venu, ô Seigneur, s'aimer l'amour. Tu es venu chasser les ténèbres et tu es venu nous faire entrer dans ton royaume des lumières. Seigneur, tu es venu chasser l'esprit profane pour mettre en nous, oui, la véritable piété, la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Seigneur, veuille purifier nos cœurs. Seigneur, si nous avons cru à des croyances maléfiques, si nous avons invoqué les noms des dieux étrangers, veuille nous pardonner. Pardonne à celui qui ce soir se courbe devant toi pour confesser son péché d'idolâtrie, son péché d'incrédulité, son péché d'indifférence, son péché de mondanité. Veuille lui pardonner. Et Seigneur, veuille maintenant entendre le cri qui monte de son cœur. Le cri de repentance, mais aussi le cri de foi en ta personne, comme Sauveur et Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Et Seigneur, nous t'aimons. Amen. Avez-vous besoin de ce message? Eh bien, vous pouvez, oui, nous contacter. Vous pouvez appeler votre serviteur, Danny Wechai. Que Dieu vous bénisse.
Tu entends ma voix.